Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le gouvernement vient d'appuyer sur le bouton Go. Il faut réduire notre consommation d'électricité de 10% d'ici 2 ans, nous dit Agnès Pannier-Runacher. Sinon, l'hiver se passera mal et il y aura des pénuries de courant. Pour l'instant, l'effort est principalement demandé aux entreprises et aux administrations par une réorganisation du travail. On en parle dans un instant. Mais on voit bien que l'heure de la sobriété a sonné. C'est le même son de cloche en Allemagne. Mais là, les propos sont beaucoup plus alarmants puisque le vice-chancelier Robert Habeck parle désormais en Allemagne, très dépendante du gaz russe, d'un Lehman Brothers énergétique. L'Europe dit oui à la taxe carbone, on en parlait hier, mais maintenant il va falloir la faire, cette taxe carbone. Il va falloir la faire et que les entreprises s'y préparent. Quel sera l'impact pour les ménages ? Et d'ailleurs, hier, on avait un invité, souvenez-vous, Thibault Langsat, qui a abordé le sujet sur le thème du protectionnisme. Est-ce qu'on peut accoler le terme protectionnisme au terme taxe carbone ? Je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé que c'était une façon de regarder le sujet qui n'était pas totalement inintéressante. Je sais que quelqu'un ici sera très sensible à cette notion. La seule issue pour la France est de réduire ses dépenses récurrentes, d'augmenter son taux d'emploi. Il nous faut un gouvernement de salut public. C'est le message signé Philippe Aguillon dans les colonnes des Échos aujourd'hui. Tandis que ça part mal à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur le pouvoir d'achat est déjà mal engagé. Chacun a sa petite musique, chacun a sa petite revendication et donc le ton commence à monter. La hausse des taux est une bonne chose, c'est ce qu'écrit Mathilde Lemoine dans les colonnes des Échos. Oui, oui, il faut absolument freiner l'inflation, il faut retrouver une vérité des prix, quitte à aller jusqu'à la récession. Je dirais pas qu'elle est pour la récession, mais en tout cas, ça fait partie des options. Et puis, ça vous a sûrement pas échappé, mais le mot retraite n'était pas dans la prise de parole du président de la République qui a duré 8 minutes à l'Élysée, à 20h, il y a 48 heures ou 3 jours. Là. Est-ce que cette réforme est d'ores et déjà enterrée ? Eh bien, on posera la question. Agnès Michel, bonjour.
Bonjour.
Membre du comité éditorial de Terra Nova. Avec nous, Philippe Aguillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes. Vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, bonjour, bienvenue.
Rebonjour.
Professeur à l'ESCP, vous publiez l'histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous chez Talendier, et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont voici le numéro du mois de juin. À la une de ce numéro, si l'Europe devenait puissante. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est bon signe. Ça veut dire que vous y croyez ?
Oui, oui, on y croit. Alors évidemment, sur le plan militaire, l'Europe est un peu en retard par rapport aux États-Unis ou même à la Chine, mais l'Europe a beaucoup d'atouts et l'Europe est attractive. Ce qu'on montre, c'est que il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer à l'Europe. On voit l'Ukraine en ce moment, mais la Macédoine est en train de négocier pour adhérer à l'Europe. L'Albanie voudrait adhérer à l'Europe. La Géorgie veut adhérer à l'Europe. Il y a des manifestations en Géorgie pour que le gouvernement est en train de négocier. Et donc, je crois que l'Europe est attractive. Alors, j'espère qu'elle ne l'est pas uniquement pour le coffre-fort allemand. C'est-à-dire, on peut penser qu'il y a des gens qui se disent, voilà.
Pour fuir
la Russie,
un petit peu,
quand même. Pour fuir la Russie, le coffre-fort
plutôt dans l'OTAN.
Mais la signature berlinoise, voilà, le parapluie de Francfort avec la BCE, bon.
Et donc, et puis, on souligne aussi quand même le succès objectif de ce qu'est l'euro. Et c'est important parce que c'était pas gagné. Et puis, on a profité du fait que, alors, aujourd'hui, c'est d'actualité, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 ans, le monde entier découvrait avec une forme de surprise, voire de consternation, que les Britanniques avaient voté pour le Brexit. C'était le 23 juin.
C'est déjà 6 ans.
Oui, c'était le 23 juin 2016. Et à minuit, tout le monde était persuadé que le Brexit était rejeté. Et puis à 4h du matin, on s'est aperçu que le vote en faveur du Brexit avait gagné.
Je ne sais pas s'ils le referaient de la même manière, les Britanniques, aujourd'hui.
Bon. Je crois qu'on ne leur posera plus la question.
Voilà, donc voilà, c'est Pour l'écho, le numéro du mois de mai. Je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus ce que je voulais rajouter. L'actualité sur la sobriété. Voilà. Là, on a des faits. On a des faits. Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique, nous dit qu'il faut réduire de 10% notre consommation d'électricité d'ici à 2 ans, car on ne passe plus l'hiver si nous ne le faisons pas. Alors, en Allemagne, le ton est très différent, puisqu'effectivement, on va mettre les ménages à contribution, et d'ores et déjà, ils disent, pour l'instant, on passe pas l'hiver. Hein. Ils dépendent très largement, beaucoup plus que nous, du gaz russe. Et donc, les pistes envisagées seraient de décaler les horaires de travail, pour éviter, lisser la consommation tout au long de la journée, donc on évite le pic du matin, on évite le pic de la fin de journée, relancer massivement le télétravail, l'expérience de Covid prouve que ça réduit d'environ 5% la consommation d'électricité s'il est massivement pratiqué, et puis aller jusque à imposer avec des dédommagements, des fermetures pour des usines vraiment très énergivores. Alors là, évidemment, on est sur un gain qui pourrait être de 15% en termes de consommation d'électricité. Elisabeth Borne s'est voulue rassurante en disant que les stocks de gaz étaient plus avancés que prévu et qu'on devrait être à 100% à l'automne, et elle a annoncé le lancement d'un cinquième terminal méthanier pour traiter du gaz naturel liquéfié, notamment en provenance du Qatar et des États-Unis. Il verra le jour seulement en septembre 2023, donc ça va prendre un peu de temps, mais il devrait couvrir 10% des besoins de la population française. Il sera opéré par Total Energy. C'est votre grand jour, Agnès Michel. C'est la sobriété, l'heure de la sobriété a sonné.
Alors, très honnêtement, l'avantage de cette situation, c'est qu'on sort de la situation de Cassandre qui avait raison, hein, mais c'était mal pris dans la mythologie grecque. Et là, effectivement, ce qu'on dit depuis des années quand on a une casquette écologiste, ce qui est mon cas, c'est que à un moment donné, il y a des limites planétaires qui sont accélérées par la situation géopolitique sur l'accès à l'énergie. On a vécu 150 ans, c'était la fête.
Corne d'abondance, c'est dit Jean-Covici.
On avait énormément d'accès à de l'énergie. Et cette phase-là est en train de se refermer. On a deux façons de voir les choses. On peut le voir de façon extrêmement négative en disant, mon Dieu, c'est la fin de tout du progrès, comme si le progrès c'était de produire plus. C'est une appropriation de cette terminologie que je conteste.
Ça peut en être une. On peut dire que progrès c'est produire plus.
Façon, mais
ça peut être autre chose.
Progrès, chacun peut avoir sa propre définition. Donc on peut voir les choses de façon très négative ou on peut voir les choses de façon très positive. C'est-à-dire que les changements induits par cette contrainte d'accès à l'énergie peuvent être aussi une façon de faire des choses positives. Par exemple, on sait très bien que la Hollande, là, qui va relancer le charbon, produit énormément de fruits et légumes, ce qui est assez aberrant si on regarde la géographie. Je ne dis pas que dans 10 ans, ils seront aussi ensoleillés que la Méditerranée.
Il y a des serres monumentales aux Pays-Bas.
Les serres, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grosse consommation énergétique.
Oui. J'en ai parlé hier, Agnès. J'ai donné une anecdote hier. C'est scandaleux.
Je m'en veux terriblement. Bon. Néanmoins, ces serres consomment énormément d'énergie pour produire des fruits et légumes, dont, excusez-moi, en tant que méditerranéenne, je trouve le goût assez passable, assez justement négatif. Et puis en termes d'un nutritionnel, etc., on peut contester aussi. Donc l'aspect positif, c'est de se dire finalement, en rationalité économique, ce ne sera pas très intéressant de surproduire dans ces serres et de faire voyager cette fameuse image de la tomate qui traverse toute l'Europe, donc un bon millier de kilomètres pour aller jusqu'en Espagne, où pourtant ils en produisent aussi. Donc c'est ça qui peut être intéressant.
Généralement, ces tomates... Enfin, on va faire un débat sur la tomate, mais elle est consommée justement là. Bon.
Non, mais c'était ce modèle-là qu'on avait développé à fond parce qu'on avait de l'énergie comme ça, mais à foison. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on va pouvoir faire autrement. Et ça aura un impact positif pour tous les gourmets qui aiment les tomates, qui ont du goût.
Philippe Aguillon, par rapport à ce que vient de dire Agnès Michel, l'heure de la sobriété, comment
ça
vous...
Ça ne se limite pas à la tomate, c'était un exemple, évidemment.
D'accord. Comment vous voyez l'histoire?
Moi, je pense que la façon de résoudre le problème de l'énergie et de réconcilier prospérité et environnement et lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce que j'appelle l'innovation. Et l'innovation, elle est dans tout. L'innovation pour trouver des sources d'énergie propres. L'innovation pour produire autrement. Mais si l'innovation aussi dans nos comportements. Je pense qu'effectivement, quand Draghi dit en Italie, on peut se chauffer à 19 degrés, pas à 21 degrés. Quand certains disent en France, on peut rouler à 110 maximum et pas à 130. Ça aussi, je veux dire, c'est de l'innovation dans nos comportements. À Paris, vous savez qu'on ne trie pas encore les ordures. C'est un comme moi, je vais souvent à Stockholm. C'est beaucoup moins qu'en Suède et dans d'autres pays.
C'est la collecte.
Donc voilà.
La collecte.
Donc.
Ah oui.
Voilà. Donc, si vous voulez, je crois qu'on peut. Et pour moi, le mot innovation, c'est ce qui est. Parce que là où je ne suis pas totalement d'accord avec tout, je ne pense pas qu'il y ait. Les ressources soient finies. C'est-à-dire que je pense à partir du moment où on a l'idée de l'innovation, alors le champ des possibles augmente. Mais c'est l'innovation aussi dans nos comportements. Et effectivement, eh ben, si on peut se chauffer à 19 et rouler à 110, il faut absolument le rendre obligatoire ou le favoriser. Parce que ça va contribuer à. Mais en même temps, il faut trouver de nouvelles sources d'énergie. En même temps, et là, vous savez qu'il y a la fusion nucléaire, il y a ce qu'on appelle les solar kites pour essayer d'attraper, d'aller dans l'espace. Il y a des technologies fabuleuses pour essayer de contenir le réchauffement climatique et de trouver des sources d'énergie propres. Et je pense qu'il faut tout essayer, qu'il faut tout faire. Voilà.
Il y a un aspect de votre démonstration, Agnès, quand vous disiez. Je remarque, mais vous disiez. Ah ben voilà, on est rattrapé par les limites.
Je pense pas qu'on doit être malthusien. On n'est pas obligé d'être malthusien. On est dans l'optique de l'innovation, alors ça veut dire quand même qu'il faut être beaucoup plus dans ses comportements, innover également. Et là, je suis tout à fait d'accord que voilà, il faut plus faire du gâchis comme on faisait avant. Mais en même temps, quand on est dans le monde de l'innovation, on n'est plus malthusien. Et je crois que quand on ignore l'innovation, on est condamné au malthusianisme.
Je crois que la prise de position d'Agnès Pannier-Runacher est beaucoup plus motivée par les mètres cubes de gaz russe qui n'arriveront plus que par la soudaine prise de conscience des limites.
Et nous, moins que les Allemands, parce que nous avons, et là c'est un point de désaccord, heureusement qu'on a le nucléaire. Parce que vous vous rendez compte, si on avait pris la même décision que les Allemands, et certaines forces politiques en France poussaient pour qu'on fasse comme les Allemands. Mais vous vous rendez compte, si on avait fait comme les Allemands, ils sont obligés d'utiliser le charbon maintenant. Ouais. Et nous, heureusement, on est moins dépendant du gaz russe que les Allemands grâce au fait qu'on a gardé les centrales nucléaires.
Vous savez qu'on dans la loi économique, excusez-moi, je fais vite. L'allocation des ressources. Le problème de parler tout le temps d'innovation et souvent technologique, c'est qu'on alloue les ressources à cette innovation. Et c'est le pourquoi il y a ce côté très militant pour pousser sur le fait d'investir dans d'autres innovations. Par exemple, investir dans la transition thermique des bâtiments, c'est effectivement moins glamour que d'aller dans l'espace.
Néanmoins, ça a une efficacité
extraordinaire.
Ah non, mais moi je ne suis pas contre pour les bâtiments et les transports.
C'était sur le nucléaire que j'imaginais vous entendre.
De toute façon, le nucléaire, c'est une solution à 15 ans. Si c'est une solution, et aujourd'hui, ça ne répond pas. On voit que le parc est très vieillissant. Il est d'ailleurs à l'arrêt et il y a une diminution forte de sa production. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça peut être une réaction immédiate côté nucléaire. Voilà. Mais après, qu'on m'explique, moi je suis ouverte à la discussion.
Je rappelle qu'effectivement, il y a aujourd'hui une particularité avec le parc nucléaire français, c'est qu'un peu plus de 10 réacteurs sont arrêtés durablement pour des raisons de corrosion, mais les autres arrêts...
De 560 à 400, les prévisions, je crois.
De térawattheure
J'ai pas vu. Les prévisions, c'est 400, je crois, pour les années à venir. Ça fait beaucoup moins, quand même.
Mais je rappelle que tous les autres réacteurs à l'arrêt, ce sont des arrêts classiques, habituels du printemps, et c'est pas tout d'un coup, le parc est cassé. Voilà. Il y a effectivement un sujet de corrosion sur des réacteurs, d'ailleurs relativement récents. Jean-Marc, par rapport à ce qu'on a dit
sobriété... Oui, alors je vais essayer de faire un peu la synthèse de tout ce qui a été dit. Concernant...
Il y a le droit de me dire qu'ils ont totalement tort, tous les deux.
Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je pense. Mais je vais le dire avec des formes.
Non, je pense que c'est une boutade.
Non. Concernant le fait de savoir si les ruptures à laquelle qu'on va devoir affronter, c'est une rupture qui est liée aux limites de la nature ou si c'est une décision politique, je pense que c'est plutôt politique. Oui. Et qu'on a connu ça déjà en 1956 avec la crise de Suez ou en 1973-74 avec le choc pétrolier. Ce que je trouve intéressant, c'est les réactions qu'on a vécues à cette époque-là, comment on a réagi, et on n'a pas l'air de vouloir s'en inspirer. Donc en 1956, il y a une formule que je mets souvent en avant, le président du Conseil, c'était Guy Mollet, un socialiste, un homme de gauche, même si les socialistes le renient, et il avait dit, je fais d'abord appel au civisme. Je demande aux gens, et au bout de 3 mois, il avait dit, j'ai fait appel au civisme, maintenant je vais faire appel au cynisme. Et donc, il a augmenté les prix de l'essence et mis en place des tickets de rationnement, parce que le civisme, ça marchait pas forcément. Ah. Donc, je crois qu'il faut aussi savoir utiliser le signal économique, qui est le signal prix, savoir effectivement faire appel au cynisme et au calcul d'intérêt, qui est celui des êtres humains. En 73-74, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, alors vous parliez des aménagements, on a fait l'heure d'été. L'objectif, c'était de faire en sorte de consommer moins d'électricité.
Traumatisant pour les gens.
Oui, on a fait des mesures qui étaient celles dont vient de parler Philippe, c'est-à-dire le fait qu'on devait chauffer les administrations à 18 degrés. Et donc, il y avait même des circulaires. Moi, je me souviens, j'étais jeune fonctionnaire, où il y avait des circulaires invitant les fonctionnaires à venir avec un pull pendant l'hiver, de façon à pouvoir affronter les 18 degrés en question. Et donc, il y avait des mesures.
Ce n'est pas d'un radicalisme dingue.
Non, c'est pas. C'est... Mais on a construit des centrales nucléaires en même
voilà.
temps.
Et il y avait à la sobriété. Mais alors, il y avait des choses. Et donc, pour conclure là-dessus, puisqu'on est.
C'est on pas a les... presque fait la moitié de l'émission. Oui,
il y avait, par exemple, on avait limité la saison de Formule 1 en automobile.
Ah, ça, je ne me souviens pas.
Et donc.
On avait limité.
Oui, on avait annulé
un certain nombre. Bravo, Guimolet, m'écrit un auditeur.
Il y avait, voilà. On avait supprimé un certain nombre de grands prix de Formule 1. On avait négocié avec la Fédération des sports automobiles. Et donc, il y a des choses comme ça. On a fait appel à la sobriété. Mais il y a des endroits et des lieux où cette sobriété n'est même pas évoquée. Et donc, je crois que la sobriété, même si on fait appel au cynisme, elle ne sera légitime que si on a l'impression que tout le monde est touché par la sobriété. Quant à l'innovation, évidemment, je partage le point de vue de Philippe Aguillon, mais mes papiers que je fais sur l'énergie en général, je fais toujours allusion aux physiocrates. Et je raconte toujours. Donc, les physiocrates, c'est des économistes du XVIIIe siècle. Et je fais allusion à un courrier qu'avait échangé Mirabeau, le père du célèbre révolutionnaire, avec D'Alembert. D'Alembert, symbole de l'intelligence scientifique de l'époque. Et il lui dit, écoutez, quand on regarde bien, l'énergie, c'est du soleil. Le charbon, c'est le soleil d'hier. L'agriculture, c'est on attend le soleil de demain. Une forêt, c'est le soleil qui progressivement... Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le soleil d'aujourd'hui? Et D'Alembert lui dit, écoutez, on cherche. Mais je peux vous garantir qu'à la fin du siècle, on pourra utiliser cette ressource infinie qu'est le soleil. Et donc j'appelle ça la promesse de D'Alembert parce que nous sommes pas à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes au début du XXIe siècle et la promesse de D'Alembert n'est toujours pas réalisée. Alors je crois
parce qu'il y a eu d'autres énergies qui étaient plus faciles à exploiter.
Oui, mais je pense qu'un véritable enjeu, c'est effectivement faire de l'innovation, bien l'orienter, mais aussi en connaître les limites. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mieux utiliser le soleil d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que D'Alembert n'a pas eu raison? Et donc je crois qu'il faut être ferme dans l'innovation et savoir que de temps en temps, il faut passer par des périodes de transition.
Je vais être un peu basique, Jean-Marc Daniel. Quand vous dites utiliser le soleil d'aujourd'hui, c'est le soleil là le...
Oui, la quantité d'énergie que nous envoie le soleil voilà. est très large.
D'accord.
Et très large.
Non, parce qu'on pourrait. Hier. Je pourrais vous dire le soleil, c'est le nucléaire. Vous voyez, je pourrais vous dire que.
Le soleil.
Mais non, mais il faut une vraie politique industrielle. Je crois beaucoup dans le signal prix. Je crois qu'effectivement, et on sait que quand on augmente le prix du carbone, ça incite les entreprises non seulement à produire plus vert, mais à innover plus vert. Donc ça, j'y crois. Mais je crois aussi à une politique industrielle verte. Il faut créer une DARPA énergie, l'équivalent de la DARPA américaine, la Defense Advanced Research Project Agency, pour développer des grandes technologies. Et je crois beaucoup que c'est les deux. C'est à la fois la jambe prix du carbone et la jambe politique industrielle. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas faire de la politique industrielle. Il faut qu'on apprenne à gouverner la politique industrielle, à faire un mélange de top-down, de haut en bas et de bas en haut. C'est-à-dire, comme on a fait pour les vaccins, hein, l'ARN messager, il y avait l'argent qui venait du ministère de la Santé et de la Défense américain, mais ils ont suscité plein de projets concurrents des laboratoires. Et c'est ce mélange-là qui a fait qu'on a pu, en un an, transformer l'ARN messager en production de masse de vaccins. Il faut faire la même chose pour l'énergie verte. Je crois beaucoup que c'est aussi important que le prix du carbone.
Je disais, Philippe, que c'était le jour de gloire d'Agnès Michel avec la sobriété qui venait de sonner, mais c'était hier, votre jour de gloire. Taxe carbone validée par le Parlement européen. Vous vous dites, ça y est, l'Europe a envoyé le vrai signal de la transition verte.
Mais moi, je pense que la taxe carbone, c'est très important, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il faudra les deux. Je pense que ça va être des grandes technologies qui... C'est les deux.
D'accord.
Il faut les deux. La taxe carbone seule ne le fera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'affranchir de la taxe carbone en prenant le prétexte de la politique industrielle. Mais... On a besoin des deux jambes.
Et vous, Agnès, juste... Alors, allez-y, Jean-Marc, allez-y.
Juste pour rebondir sur l'histoire du soleil.
Je voulais aller vous chercher sur le protectionnisme et la taxe
carbone. Oui, je vais revenir là-dessus. Mais sur le soleil et tout ça, une des questions qu'on se pose quand vous regardez...
Après les tomates, le soleil.
Toute la littérature qu'il y a en ce moment sur l'évolution, justement, de l'innovation, de la recherche et tout ça, c'est le charbon. Bon, Agnès l'a dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est précipité vers le charbon. Et il y a un travail extraordinaire de Kenneth Pomerantz, qui est un grand historien de l'économie, qui explique pourquoi la force du Royaume-Uni, c'était pas l'esprit d'aventure, c'était le fait qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire des recherches sur le charbon. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a une physique qui est apparue du charbon qu'on appelle la thermodynamique. La question que l'on se pose à l'heure actuelle, c'est pourquoi est-ce que la physique du soleil n'existe pas vraiment? Pourquoi est-ce qu'on fait de la physique du nucléaire et pas de la physique du soleil? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de gens capables de comprendre le soleil que vous vivez, que nous allons retrouver tout à l'heure quand on sort, ce soleil-là nous apporte une énergie qui est infinie, incommensurable, sans limite.
Mais la fusion nucléaire aussi, vous savez, quand on va réussir... Ah ben, la fusion nucléaire,
oui,
c'était...
Quand on va réussir,
c'est endogène. Mais on n'essaie pas que la fusion nucléaire. Mais je pense qu'il faut miser sur plusieurs technologies, pas mettre les œufs dans un seul panier, mais miser sur plusieurs technologies et mettre le paquet. Et moi, je pense que ça, c'est aussi important que la taxe carbone. Je pense qu'il y a les deux qui vont être importants.
Agnès, une 40. Ouais. La taxe carbone aux frontières validée par le Parlement européen, vous êtes
très important.
Quand vous avez entendu ça, parce que moi je suis.
C'est très important la taxe carbone aux frontières. Je veux juste dire un mot là-dessus.
J'arrive pas à comprendre comment.
Je veux juste dire un mot là-dessus sur la taxe carbone aux frontières. C'est très différent de la taxe carbone tout court. Parce que supposons qu'un certain nombre de pays européens deviennent vertueux, pleinement vertueux, on décide vraiment d'aller sérieusement vers la transition énergétique et d'avoir des comportements vertueux, consommation, production, recherche, etc. À ce moment-là, il y a des pays qui peuvent devenir ce qu'on appelle des paradis polluants. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je comprends très
bien. Ils vont accueillir des entreprises polluantes, et puis après, puisqu'il y a le libre commerce, ils vont dire, vous venez produire chez nous, et après vous réexportez vos biens en France. La taxe carbone aux frontières, c'est pour empêcher ou pour limiter ce genre de comportement, c'est pour empêcher le dumping environnemental. Donc vous voyez, c'est très important la taxe carbone aux frontières. Bon. Mais il ne faut pas que ça devienne un prétexte au protectionnisme tout court. C'est là que je rejoins. C'est là qu'il faut le faire très habilement. Il faut le faire sur certains produits, et il faut le faire de manière très mesurée. Nick Stern, par exemple, qui est mon grand ami, qui travaille beaucoup sur l'énergie et sur le climat à London School of Economics, il pourra vous dire, là, il faut le faire et là, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que c'est un outil qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions parce que ça peut très vite dégénérer en protectionnisme, point barre. Et c'est ça qu'il faut, et c'est là toute la difficulté de la taxe carbone aux frontières.
Réaction d'Agnès Michel et Jean-Marc Daniel. Et faut-il y voir une forme de protectionnisme ? Hier, Thibault Langsade, un chef d'entreprise, se félicitait de cette taxe carbone. Il utilisait sciemment et volontairement et avec réjouissance le terme de protectionnisme. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, il est membre du Cercle des économistes, il a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié notamment Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous chez Talendier, et membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont voici la une du mois de juin. Elle est consacrée à l'Europe. Si l'Europe devenait puissante, j'oublierai jamais cette formule un jour de Christian Saint-Étienne qui disait « Le jour où les Européens arrivent à fonctionner correctement, on est la première puissance économique du monde ». Vu comme ça, c'est quand même très, très séduisant. On parlait de taxe carbone, c'est
oui,
ça Agnès ?
Tout à fait.
Et en fait, je voulais vous faire réagir, mais on n'a pas réussi.
Mais on va y arriver.
C'était quoi la question que je voulais vous poser ?
Est-ce que c'est protectionniste ou pas ?
Oh, non, c'est pour vous.
Ça, c'est pour moi, mais cela dit, pour moi, protectionisme n'est pas un gros mot, donc...
Non, mais d'accord, comment vous avez vécu la journée d'hier avec cette histoire ?
C'est très intéressant. Il y a eu le refus de vote il y a quelques semaines, parce que ça avait été prévu pour une mise en œuvre en
2025-2030.
C'était 2034, la proposition initiale. Et là, maintenant, c'est 2025 à 2027. Donc, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapproché en termes de délai, ce qui permet une mise en œuvre dans des délais qui sont cohérent avec les problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui.
C'est pas la taxe carbone en 2027, hein, c'est le processus qui conduit à la taxe carbone qui démarre. Non mais voilà.
Effectivement, commencer
supprimer les quotas gratuits pour les entreprises.
Commencer dans une dizaine d'années, c'est déjà trop tard. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de l'urgence. Elle est tardive, mais il faut saluer quand elle est en place. Et sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est il faut relativiser tout en ayant conscience des conséquences. Poser la question des conséquences pour les Européens. On a 65% environ des échanges qu'on a en France, par exemple, qui se font au sein de l'Europe. La question, c'est que sont les 35%? Il y a plusieurs questions. Il y a certains produits clés, mais il y a surtout des bouts de la chaîne de valeur. Typiquement, un exemple, le vélo, qui est une industrie qui se réactive en Europe. Les chaînes de vélo sont produites en Chine parce que c'est pas très cher, il n'y a pas de marge dessus, et donc c'est concentré en Chine. Ce qui pose un problème parce que, alors, je ne sais pas si vous faites du vélo, mais on ne peut pas faire de vélo sans chaîne. Il y a de nouvelles innovations avec des chaînes qui sont en carbone.
Et vous voulez en venir où avec la chaîne de vélo, là?
Mais donc, du coup, ça veut dire que c'est ça qu'il faut prévoir dans l'avenir, c'est comment on réinternalise oui. les chaînes de valeur clés qui sont importantes sur les secteurs qui sont les secteurs qui sont jugés nécessaires.
On ne veut pas non plus faire du vrai projet régime complet, ce qu'a fait Trump. On ne veut pas faire.
Ah ben d'ailleurs, Biden est en train de revenir en arrière sur les droits de douane.
Parce c'est très important pour faire baisser l'inflation.
Eh ben voilà,
oui, évidemment. Et puis en plus, n'oublions pas que le commerce international, c'est la manière qui ça permet aux pays pauvres de rejoindre les pays riches. Si on est, si on se soucie des inégalités, et je pense que ce qui est important, alors effectivement, il faut avoir une vraie politique industrielle chez nous. Moi, je suis tout à fait pour l'innovation, mais en même temps, je pense qu'il faut. Ce qui est important, c'est diversifier ses sources d'approvisionnement. C'est pas de dire j'arrête le commerce international. Le commerce international a beaucoup de bons. Vous savez, quand on est très protectionniste,
qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Je suis en train de dire qu'il faut identifier les points où effectivement un vélo s'enchaîne, ça ne roule pas, d'où l'exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on juge que c'est un risque ?
On diversifie les sources d'approvisionnement.
Mais là, on n'est plus sur la taxe carbone.
Exactement, parce que la façon dont on peut être produite.
Ah non, mais si on la produit chez nous, d'accord.
Mais voilà, mais c'est la.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout produire chez nous, même les trucs.
Mais non, mais c'est le genre de questions qui vont se poser. C'est on a un certain volume de choses qui sont produites ailleurs, dans des conditions qui seront peut-être négatives ou qui vont trop les renchérir avec la taxe carbone, ce qui montrera son effet. Et la question, c'est il faut anticiper un peu les chaînes de valeur des différentes filières. Non, mais... voilà.
Et alors là, il y a deux manières. L'innovation, parce que ça permettra de baisser les coûts, parce que si vous simplement vous dites je rapatrie toute la production, eh ben, le pouvoir d'achat va baisser parce que les produits vont être beaucoup plus chers. Donc, la manière de traiter ça, c'est d'automatiser davantage, c'est d'innover dans notre manière de produire. Et l'autre manière, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement.
Voilà. C'est là où
je pense que c'est deux leviers importants. Et puis, certaines choses doivent être rapatriées. Peut-être le paracétamol ou certains biens.
Il y a
une grande différence par rapport au pouvoir d'achat. C'est consommer peut-être moins de nombre de choses, mais de meilleure qualité et avec peut-être d'autres modèles
de financement. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, vous savez. C'est ça le problème.
C'est un argument qui peut être un petit peu aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se l'offrir.
On va nous accuser d'être des bobos aussi.
Au contraire, pensons à l'accessibilité d'un certain nombre de produits, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 10 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Donc, la situation est déjà
justement.
Là. Donc, le problème est déjà là. Trouvons des solutions de financement pour ces personnes.
J'ai un auditeur qui écrit pour vous, Agnès. C'est difficile de s'exprimer quand on est une femme face à des machos capitalistes.
Ça arrive.
Oui.
Mais quant au capitalisme, mais c'est très bien
c'est
que ce soit sur la table.
Elle s'exprime. Je vais m'exprimer en très peu de temps. Hein, parce que
vous êtes pour la taxe carbone et vous êtes hyper anti-protectionniste.
Alors, voilà. Je ne vais pas vous décevoir. Je pense qu'il y a tout un discours qui fait... Le protectionnisme greenwashé, ce n'est pas mon truc. Et donc, il y a tout un discours, en plus, qui est une forme de sincérité. Quand Thibault Lanxa dit, grâce à ça, on va pouvoir faire du protectionnisme.
On va arrêter de se faire dumping, ce que disait...
C'est toujours la concurrence internationale. Est toujours déloyal et le pollueur c'est toujours l'étranger.
Je peux vous donner quand même des exemples qui sont flagrants, Jean-Marc.
Le pollueur, il en existe.
Allez-y.
À l'étranger.
Est-ce que je peux faire trois phrases de consécutives?
Le macho journaliste.
C'est moi la matière.
Le macho journaliste.
Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, et vous avez la réaction de Pascal Canfin aussi qui s'est félicité en disant, grâce à ça, les importations vont payer. Pour le réchauffement climatique. Je rappelle, ce n'est pas les importations qui paient. Dans le protectionnisme, dans les taxes qui sont mises à l'importation, c'est le consommateur final qui paie.
Ce sera le consommateur final qui
paie. Mais c'est toujours le consommateur.
Mais voilà, mais on va juste le rappeler.
Et donc, quand on dit que c'est les importations qui vont payer, Monsieur Pascal Canfin, qui a été ministre et qui a vocation à le redevenir, nous raconte des carabistouilles de nouveau pour justifier ce protectionnisme.
Il a la foi dans cette idée.
Greenwashé. Oui, mais je ne conteste pas la foi des protectionnistes. On peut se tromper avec beaucoup de conviction.
Alors, je ne vois pas pourquoi vous défendez la taxe carbone. Excusez-moi, Jean-Marc, parce que là, vous me décrivez ce que sera la taxe carbone.
Non, mais je pense que la taxe carbone, il ne faut pas qu'elle soit orientée, fixée sur un certain type de produit et qu'elle avait comme objectif de briser le commerce international. Je pense qu'il faut donner un prix au carbone, faire une taxe carbone, et dans une logique qui est une taxe pigouvienne. Je rappelle encore une fois que Pigou disait qu'on fait une taxe et avec le produit de la taxe, on finance les moyens de lutter contre ces externalités négatives sur l'origine de la taxe.
Comme le tabac.
Donc
comme
la perte de pouvoir d'achat, par exemple, qui est une externalité liée à cette taxe.
J'entends bien, mais dans la taxe carbone, comme dans la taxe sur le tabac, on utilise la taxe sur le tabac, le produit de la taxe sur le tabac, à lutter contre le cancer du fumeur. Je pense qu'il faut utiliser la taxe carbone à financer les héritiers d'Alembert pour qu'on puisse effectivement utiliser le soleil. Alors que là, on est en train de nous expliquer que le rôle de la taxe carbone, ça va être, un, de refaire du protectionnisme pour éviter que la concurrence déloyale des affreux des pays émergents ne soit subie par nos entreprises. Et deux, on va utiliser ça pour effectivement renflouer des caisses qui ont des difficultés à être renflouées par une autre façon. Je dis non. Je dis, il faut une taxe carbone qui ne soit pas aux frontières, qui soit globalement une taxe carbone. Il faut un prix
global,
du carbone.
Global, c'est quoi global ?
Mais que tout le monde ait à peu près un prix du carbone harmonisé en Europe. On est à 180 euros le prix du carbone de référence dans les comptes publics suédois et on est à 44 euros en France.
Ah, mais c'est plus une taxe carbone alors ?
Ah, mais si, là justement,
c'est, enfin, c'est plus une taxe carbone aux frontières.
C'est justement la définition d'un prix du carbone au travers d'une taxe. Là, c'est justement vraiment une taxe carbone.
D'accord. Sur certains produits, on peut faire la taxe aux frontières, mais disons certaines matières premières.
Ah, on les connaît, ciment, engrais, chimie.
Là, je pense. Et on dit, on se restreint à ça et on ne va pas plus loin.
Sans le ciment, on ne va pas le chercher à plus de 250 km. Donc, par définition, ce ne sera pas le sujet.
Allez, j'avance. J'avance. Je voulais absolument qu'on parle du gouvernement de salut public. Je vous donne un exemple, alors c'est la chronique signée Philippe Aguillon dans Les Échos aujourd'hui, mais la loi pouvoir d'achat, on peut dire quand même que c'est le côté un peu sucré de l'histoire, tout le monde devrait être pour, on va se dire, pas de majorité absolue, mais celle-là, elle va passer, eh ben c'est pas gagné. LFI, ils diront non s'il n'y a pas le SMIC dedans et s'il n'y a pas le blocage des prix. Rassemblement National dira non s'il n'y a pas une TVA de 20 à 5,5 sur les carburants. Les Républicains diront non si on ne baisse pas les taxes sur les carburants. Et même Valérie Rabault, pour le PS, dit, moi, si j'ai pas le SMIC à 1500 net, je dis non. Ouh, eh ben la loi sur le pouvoir d'achat, on va s'amuser. Et vous écrivez aujourd'hui dans Les Échos, Philippe Aguillon, que, de toute façon, il faut réduire les dépenses récurrentes et augmenter le taux d'emploi. Je vous ai systématiquement entendu défendre ces points de vue. Mais pour ça, il faut un gouvernement de salut public. À quoi pensez-vous ?
Je pense que la façon de faire, c'est que d'abord, il faudra un gouvernement de techniciens. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des urgences. Les urgences, c'est que l'école fonctionne de plus en plus mal en France. Okay. D'accord. Le ministre de l'Éducation a ses enfants à l'école privée. Des très bonnes écoles privées, d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même symptomatique. L'hôpital public tombe en ruine. Et de plus en plus de gens, également, s'orientent vers le privé, des personnels hospitaliers, des médecins, etc. Donc, l'hôpital, l'école, c'est des urgences. La transition énergétique, on vient d'en parler, c'est une urgence. Le pouvoir d'achat, c'est une urgence. Donc, je sens qu'il y a, des urgences. Et je pense que face à ces urgences, le gouvernement doit être intelligent. Je vois un gouvernement de techniciens qui, sur chacun des sujets, il peut y avoir des mini-commissions à Thalys sur chacun des sujets pour un ou deux mois, dire voilà ce qu'il faudrait faire, qui implique des gens de différents partis, et puis laisser des idées venir dans la campagne, différents partis qui ne sont pas ensemble ou qui ne sont pas Renaissance, enfin, ou En Marche, ont fait des propositions qui sont constructives. Ben, on peut partir de ces propositions et puis construire autour de ça. Mais il faut dire voilà les urgences. Et il va falloir donc financer école, financer hôpital, financer la transition énergétique,
etc. Aussi,
le problème pour la financer, c'est que c'est là que je parle toujours de l'approche Draghi, c'est que pour financer ça, pour être crédible, il va falloir augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi en France. Voilà. Alors, il y a différentes... Et réduire les dépenses récurrentes. Donc, c'est-à-dire des dépenses non productives, des dépenses qui ne résultent pas dans davantage d'activité et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il va falloir s'attaquer à la composition de la dépense publique, augmenter le taux d'activité. Alors, la réforme des retraites est une manière naturelle. Il peut y avoir d'autres moyens. Oui. C'est aussi que dans beaucoup d'administrations, on ne travaille pas 35 heures. Ça, je pense que c'est scandaleux.
Vous comprenez, voilà. Dira pas.
Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a différents moyens d'augmenter le taux d'activité. Il y a les femmes, on facilite le travail des femmes. Un jeune, une solution, ça aussi, c'est pour faciliter le taux d'emploi des jeunes. Mais je pense qu'il va falloir dire, il y a différentes solutions sur la table, complémentaires, pour augmenter le taux d'activité, faire ça, nous rendre crédibles, pour faire ces dépenses qui vont avec une meilleure gouvernance de l'école, de l'hôpital, de la transition énergétique. Et je pense que c'est cette vision-là qu'il faut avoir. Comment on le fait ? Je pense que souvent, c'est bien quand on laisse l'idée venir de l'autre. Voyez, je pense que c'est important que le président dise pas « la bonne idée, c'est toujours moi qui l'ai, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ?» Je pense que d'autres aussi ont des bonnes idées, et je pense que dans la manière de faire dire « voilà les grandes orientations, ça c'est l'idée de base, comment on va le faire ?» Laissez les idées venir des autres. Et moi je pense que si on sait faire ça, eh bien, vous savez, tout le monde est convaincu qu'il faut réformer l'école, qu'il faut réformer l'hôpital, que le pouvoir d'achat c'est urgent, et face à l'urgence, qui voudra prendre la responsabilité d'avoir bloqué la mesure d'urgence en étant jusqu'au boutiste. Et je pense que c'est cette approche-là, si elle est faite intelligemment, vu l'urgence de la situation, va nous aider quelque part. L'urgence et la gravité de la situation va nous aider en cela. Bon. Parce que qui va vouloir prendre la responsabilité de ne pas être à la hauteur de la situation?
Il faut des urgentistes, si j'ai bien compris, dans un gouvernement de salut public.
Voilà.
Des politiques ou des non-politiques? Mais vraiment, en un mot, parce que là, je veux...
C'est là la contradiction. Moi, je vous ai bien écouté. Vous parlez d'un gouvernement de techniciens. Non, les techniciens, ils sont dans les ministères. Il y en a beaucoup de fonctionnaires dans les ministères, et c'est eux qui normalement la technique.
La réponse, oui.
Et la question, c'est justement comment on crée un consensus politique. Et je pense que, alors, si vous voulez pas de politique politicien, mettons des personnes qui ont des profils de chef de projet, par exemple, ce que reconnaîtront un certain nombre de gens qui travaillent dans les entreprises, mais en tout cas des gens qui sont capables de créer une dynamique de décision politique. Mais il faut qu'il y ait une ligne claire, parce qu'aujourd'hui on voit bien que sur l'école, sur le logement, sur la santé, aujourd'hui tout le monde est tétanisé sur les conséquences potentielles d'un choix. Or, gouverner, c'est choisir et avoir des conséquences et les assumer, et c'est ça qu'il faut. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut au contraire énormément de politique et assumer ses choix politiques et un vrai débat politique et une décision. Et là où je vous rejoins par contre, c'est qu'effectivement, une fois que la décision est prise, qu'il y a un consensus qui est fait, et c'est ça qui est l'intérêt de ce parlementarisme qui arrive, là on met en œuvre. Par contre, après, sur le retour à l'emploi, je pense que vous vous contredisez un petit peu, et je suis désolée, mais vous parlez de réindustrialisation en disant il faut automatiser pour que ça ne soit pas cher, pour que les gens puissent continuer à consommer. Mais du coup, c'est de la perte nette de potentiel d'emploi.
C'est pas vrai.
Donc là-dessus, non, moi,
c'est
je...
faux. C'est faux.
Sur les emplois,
c'est faux. J'ai fait une étude là-dessus avec Xavier Jaravel, et c'est absolument faux. Les firmes qui automatisent, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi.
On a fait
une étude qui couvre toutes les entreprises françaises. Les entreprises qui automatisent, elles créent des emplois. Pourquoi? Évidemment qu'il y a un peu de substitution du capital qui remplace du travail, mais en fait, ces entreprises deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, elles augmentent leur part de marché mondial. Elles augmentent la demande pour leurs produits, et cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. Et ça, je peux vous montrer l'étude, elle est implacable. Et c'est vraiment, c'est nous qui l'avons faite. Et donc, c'est vraiment, j'ai passé 2 ans sur cette étude-là. Je suis désolé.
Bon.
Mais
alors
là, c'est faux, totalement faux.
Non, mais il y a pas mal d'études, Agnès, qui contredisent l'idée que les robots tuent les boulots, quand même.
Non, les boulots moins qualifiés qui ont du mal.
Il faut former, il va falloir former. On peut pas rester classé comme des. Enfin, on peut pas rester des brels dans PISA éternellement, c'est pas possible, évidemment. Il va falloir que ça change aussi, ça.
Voilà, mais de toutes les façons aussi, sur l'emploi, on voit bien qu'il y a une problématique, et ça rebondit sur ce que vous disiez, sur les questions de pouvoir d'achat, sur le fait qu'un certain nombre de métiers dans la restauration, etc., la donne relative à l'emploi est en train d'évoluer, et ça touche aussi les secteurs de la santé, et c'est un sujet sur lequel il ne va pas falloir transiger, et ça veut dire aussi, peut-être, toujours avec cette idée de signal prix, revoir un petit peu, par exemple, contrôler le prix des loyers, et faire que la vie soit gérable avec des salaires gérables. Alors, pour l'ensemble du monde économique.
On ne va pas ouvrir tous les sujets, le blocage des prix.
Oui, d'accord. Sinon, de toutes les façons, on parle dans le vide.
Bon, je voulais faire juste une réponse. Oui, je suis désolé, je monopolise trop.
Jean-Marc Daniel, vous n'allez
plus voir m'inviter. Ce que je voulais dire, c'est que je suis totalement d'accord. C'est à la chambre pour faire de la politique. Quand je disais il faut laisser les autres faire des propositions.
Ces autres, c'est les politiques.
Les politiques.
Ah, d'accord.
Mais oui, les autres, ce n'étaient pas les techniciens. Je dis, le gouvernement, lui, peut être un gouvernement de personnes qui sont les sujets d'école ou de santé, etc., ou de transition énergétique, sont des gens qui connaissent. Vous parliez de Pascal Canfin, il connaît bien l'énergie. Bon, Agnès, elle le connaît. Voilà, il y a des. Mais que, évidemment, les accords doivent être politiques à la Chambre. Mais que dans les accords, il ne faut pas faire comme avant, disant moi, je sais ce qu'il faut faire, vous êtes des idiots. Non, vous avez de très bonnes idées et il faut laisser les bonnes idées venir des autres également.
J'ai pas l'impression que s'installe très gentiment la culture du compromis ces jours-ci, là.
Je pense que c'est crucial. Je pense que le président doit montrer qu'il est capable de gouverner par compromis. Je crois que c'est vraiment la révolution qui doit s'opérer.
Ah, n'oubliez pas le livre visionnaire de Jean-Marc Daniel, Macron, la valse false de Jupiter, pourquoi ses erreurs nous mènent dans le mur, on y est.
Voilà. Oui,
c'était signé Jean-Marc Daniel. C'est Richard qui me rappelle ça.
Dans les trois phrases que je vais réussir à positionner je vais mettre juste une. Lisez ce livre. Lisez ce livre.
Et c'est trois mots, là, c'est pas trois phrases.
Essayez de faire votre marché entre l'échange.
Alors, dites-nous, là. Voilà. Bon, je pense d'abord, quand on regarde, là, vous dites, la loi pouvoir d'achat est. Va avoir du mal à naître et c'est dommage. Non.
J'ai pas dit que c'était dommage, j'ai dit que c'était mal engagé.
C'est mal engagé, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a quand même une assemblée à l'heure actuelle où je sais pas si elle a de bonnes idées, mais ce qui en remonte, c'est plutôt du toujours plus à la François de Clauzy.
mesure, ça, d'accord.
Alors on va dépenser, on va bon. Et je suis assez d'accord avec le fait qu'il y ait des urgences sur les réformes à faire. Mais c'est vrai que tous les hommes politiques envoient leurs enfants à l'école alsacienne dès qu'ils peuvent, et ils vont se soigner à l'hôpital américain de Neuilly dès qu'ils peuvent. Donc il y a une espèce de tartufferie globale.
Bien sûr, on le sait.
Qui fait que ça va être difficile. La conséquence de ça, c'est que je pense qu'il ne va rien se passer pendant un petit moment, que le pays va vivre sans gouvernement.
Et vous vous en réjouissez.
Et un peu à la belge.
À la belge, voilà. Et donc, vous avez fait plus de 300 jours sans gouvernement.
Les régions sont très
oui,
fortes.
Oui, c'est vrai.
Oui, les régions sont très fortes, mais justement, la vacance du pouvoir qui va apparaître va avoir comme conséquence qu'un certain nombre d'opérateurs intermédiaires, d'acteurs privés vont pouvoir prendre, effectivement, vont pouvoir respirer. En Belgique, ça a duré 589 jours en 2010 et 652 jours en 2019. Si on pouvait tenir aussi longtemps, je pense que ce serait pas mal, d'autant plus que...
On a un petit problème de logement, on a un petit problème d'école.
Oui, mais
si on pouvait aussi.
Oui, non, mais
et d'ailleurs, c'est la gouvernance, la clé, peut-être plus que les moyens financiers.
Quand il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour résoudre ces problèmes, on produisait des lois, on n'a jamais produit autant de lois, concrètement,
c'est
on ne résolvait pas ces problèmes.
Le problème étant dans le décret, quoi.
Non, mais c'est désespérant, c'est parce que des gens...
L'autre jour, je disais chez Edwige Chevrillon que en 1439, Charles VII convoque ses conseillers et il dit, voilà, on vient de réunir les états généraux, on a fixé un certain nombre de textes, on a mis en place un certain nombre de lois, est-ce qu'il faut les faire revenir l'année prochaine pour réexaminer tout ça? Et puis après réflexion, Charles VII dit, non, on a les lois, on a le cadre, maintenant on va laisser les Français agir. Et on a reconvoqué les états généraux en 1560. Donc de 1439 à 1560, on a laissé les Français respirer. Je pense que ce serait pas mal de laisser les Français respirer un peu, sachant pour conclure qu'il y a quand même un enjeu fondamental d'un Parlement qui est le vote du budget.
Ah bah oui.
Or, jusqu'à présent, tous nos parlementaires se sont soumis, ont voté un budget qui était non conforme aux engagements européens, non conforme aux textes qu'ils avaient même votés.
On va continuer.
Et donc, je pense que, la seule chose qu'ils pourraient faire, pour certains, c'est d'essayer de s'affirmer. Et deux, de toute façon, les institutions de la Ve République, qui sont en train de montrer qu'elles ne sont pas aussi efficaces et aussi... parfaite que ce qu'on nous a raconté pendant 40 ans, ces institutions de la Ve République apportent une seule chose, c'est que le budget sera voté. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, c'est Raymond Barre s'était vu censurer son budget en 1979, le budget 80, et donc le Conseil constitutionnel avait dit il appartient, dans sa décision, il appartient au gouvernement et au Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une situation de défaillance financière.
À l'américaine.
Voilà, donc on n'aura pas les shutdowns, on aura un budget,
on a pas de mur de la
et on va respirer pendant que nos parlementaires feront du toujours plus qui échouera complètement.
Moi, je pense que si on est intelligent, on peut faire en sorte que les LR ne votent pas contre, voilà, par exemple, ou des socialistes ou des Verts sur certains différents projets. Je pense que si on le fait intelligemment, mais pas de la manière, moi je sais ce qu'il faut faire, vous ne savez rien, voilà, je propose quelque chose, c'est oui ou c'est non, c'est pas ça. Il faut laisser les idées émerger. La commission Attali était un bon modèle de son, le président devrait s'en souvenir. C'est-à-dire qu'il y avait dans la commission Attali des gens de différents horizons, mais on savait quelles étaient les priorités. Et on était guidés par ça. Et je pense que sur les différents sujets comme l'école, la santé, la transition énergétique, on peut avoir des mini-commissions Attali qui en deux mois disent, voilà, que par exemple la santé, par exemple Juvin pourrait co-présider une commission sur la santé qui arrive à un rapport en deux mois. Et on dit, voilà, c'est la base sur laquelle on va proposer une politique. Vous imagineriez LR voter contre une ligne où Juvin était co-président de la commission santé, par exemple, sur une autre
problème. Chose. On va nous expliquer chaque fois qu'il faut mettre plus d'argent, alors qu'on sait
absolument pas, puisque moi je propose
l'école est pas sous-dotée financièrement.
Non, mais c'est pour ça que je dis en même temps, il va falloir travailler sur des moyens. Alors les retraites c'est un moyen, mais il y a d'autres leviers pour augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi, pour être crédible, pour faire ces investissements. C'est ça, il faut les deux. On peut pas avoir juste les dépenses, et il faut que d'abord que les dépenses aillent avec une bonne gouvernance. C'est pas juste dépenser plus,
c'est la clé.
C'est dépenser en gouvernant mieux et avec cette réforme pour augmenter le taux d'activité, le taux d'emploi.
Oui.
Et c'est pour ça que la réforme ou des retraites, ou l'équivalent,
ressemble un peu à un vœu pieux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vu sur le précédent mandat un certain nombre de comités. On a même vu une convention citoyenne qui était une innovation intéressante. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on applique ? Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des comités de réflexion, etc. Mais je pense que la solution, elle est plutôt si est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a la maturité de créer un compromis politique. Après, le reste, ça n'est que bavardage.
Oui, parce que là, je pense que ça va encore. Enfin, il y a plein de forces politiques qui vont dire qu'il faut mettre de l'argent, toujours de l'argent. Regardez, Valérie Rabault-Pierre, elle nous dit si le SMIC n'est pas à 1500 net, elle est PS, elle n'est pas LFI.
Non, mais là, elle est dans de la politique habituelle d'avoir des totems, etc. Après, il n'y a pas un gap extraordinaire. Mais encore une fois, si on pense coût de la vie, on a deux façons de voir. C'est on augmente les revenus ou on fait diminuer un certain nombre de coûts de la vie. Parlons de la réalité de ce qui reste à vivre pour les citoyens, oui, et pas quelques citoyens, la majorité des citoyens.
L'intuition, Agnès, va plaider pour des contrôles de prix, des boucliers tarifaires, mais on sait bien que la réalité économique
c'est le courage politique. Mmh. À un moment donné, la politique et l'économie s'inclinent devant la politique. Oui, mais comme ça que
Agnès,
ça devrait être.
Je disais hier, et je trouve ça aussi désespérant que ceux dont on parlait à l'instant, quand vous faites de la politique, 2 et 2 font 10. Oui. Au fait de l'économie, 2 et 2 font 4.
Tu bloques les prix de tous les biens durablement. Alors, tu décourages les entreprises d'investir et d'innover
parfois,
et d'employer.
2 et 2 font 3. L'économie n'est pas une science absolue plus. Et elle répond aussi à des visions du monde.
Non, mais je pense qu'on est rentré plutôt dans une phase de blablacratie que de démocratie. Oui. Et donc... Non, pas autour de la table, au niveau du pays. Et je pense que, alors, les commissions...
On sait ce qu'il faut faire.
Mais on n'a pas besoin d'une nouvelle commission Attalis.
Et je pense, par exemple, pour remettre les gens au travail et tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Avec quoi ?
Qu'il faut remettre les gens au travail. Et il y a une loi qui a été votée.
Travailler plus en France.
Il faut travailler plus.
Oui.
Et donc, il y a une loi qui a été votée pour que les collectivités territoriales appliquent effectivement.
Ça, de 32 à 35
heures. Les 35 heures.
Et à Paris, on ne veut pas l'appliquer. C'est délirant.
Oui, mais
Vous êtes cogérés.
Il y a des grèves.
Il
n'y
a pas besoin.
Paris,
oui.
35 heures, bon sang.
La loi est votée. Il n'y a pas besoin.
C'est délirant.
Il suffit d'appliquer la loi. Il y a des préfets. Ils sont là, quel que soit l'état du Parlement. Ils sont là pour faire appliquer la loi. Il y a des juges. Je pense qu'effectivement, ce pays peut vivre en digérant tout ce qui a été fait. Je déplore qu'effectivement, dans la période du fait majoritaire, où il y avait une majorité, un certain nombre de problèmes n'ont pas été résolus. Mmh. Mais je crois que ce n'est pas dans la phase de blablacratie qu'on va résoudre les problèmes, même les plus urgents. Et donc, c'est au secteur privé de s'approprier ces problèmes. C'est à
C'est pas le secteur privé qui va faire travailler plus.
Oui, mais quand il y a des urgences.
Mais c'est le secteur privé qui va créer des hôpitaux, c'est le secteur privé qui va créer des écoles.
Mais non, justement, c'est ce qu'on veut pas. On veut pas. Alors quoi, donc, c'est-à-dire qu'on laisse le mouvement de fuite vers l'hôpital privé, de fuite vers l'école privée. Moi, justement, je pense qu'il
faut.
Il y a une promesse de la République. La France, c'était le pays de la promotion sociale par l'école et où la santé de qualité est accessible à tous. Il faut que la France retrouve cette promesse. Et ça, c'est l'action de l'État. Je suis désolé. Le secteur privé peut faire beaucoup de choses, mais ça, il ne peut pas faire. Ah et je pense, je crois beaucoup dans le triangle entre entreprises qui innovent, mais l'État et la société civile. Et ce triangle est crucial si on veut résoudre le problème de l'école, de la santé, de la transition énergétique, de la réindustrialisation. Et il faut avoir quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, où on finance le truc. Et donc, il faut qu'on travaille plus. Et si on n'a pas un programme qui dit quelque part, on travaille davantage, eh bien, on ne pourra pas financer l'école, la santé et la transition énergétique. On n'en sort pas de cette équation-là.
Je ne suis pas un expert, un expert urgentiste comme vous les décriviez, Philippe Aguillon. J'ai fait un tout petit exercice tout bête sur l'histoire de PISA. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces pays à être si bien classés dans PISA? Qu'est-ce qu'on a, nous, à être si mal classés dans PISA? J'ai regardé toutes les caractéristiques des pays PISA top 5. Eh bien, à chaque caractéristique, c'est l'inverse chez nous, hein. Donc vous voulez que ça change? Mais si vous faites la recette PISA top 5 en France, c'est la grève.
Alors, mais oui, mais il faut être courageux pour les réformes.
Ah, bah oui.
Mais la méritocratie, à l'heure actuelle, elle passe par les établissements.
On termine la blabla.
Il n'y a pas de méritocratie.
Allez, Agnès, pour clore.
Il y a de l'héritage. L'héritage financier, de l'héritage culturel.
L'efficacité scolaire, à l'heure actuelle, elle est portée par les établissements.
Je crois beaucoup dans l'autonomie des écoles.
Ah, bah oui.
Et l'autonomie des hôpitaux. Je pense que ça va être une grande réforme. C'est-à-dire qu'on donne davantage aux directeurs d'hôpitaux et aussi aux directeurs d'école pour mettre en œuvre un contrat pédagogique.
On a fini, là.
Eh bien, pour mettre ces externats d'excellence, je pense que ça, c'est vraiment les grandes réformes à faire.
En 2016, voilà. Plus d'autonomie, malheureusement.
Mais avec plus de moyens.
Il s'est laissé avoir par le goût du pouvoir individuel.
C'est pour ça qu'il faut lire le livre de Jean-Marc Daniel, La valse folle de Jupiter.
Voilà, la blablacratie de la semaine s'achève. C'était avec Michel, Agnès Michel.
Non, c'est pas nous, la blablacratie.
Non,
la
blablacratie, Jean-Marc Daniel.
C'est Macron, la blablacratie.
Pour l'écho, au mois de mai, si l'Europe devenait puissante, eh bien, on se retrouve lundi à 9h.